cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 12 octobre 1995.
Dernière fois, exprès, j'ai été très vite pour vous montrer qu'en métaphysique, en philosophie première, il n'y a que deux interrogations. L'interrogation, qu'est-ce que c'est que ce qui est en tant qu'il est, selon la forme? Thank you. risque de ne regarder cette interrogation qu'au niveau pratique, philosophie humaine. La philosophie du facere, de l'activité artistique, on comprend bien l'interrogation. En vue de quoi tu fais cela? En vue de quoi le menuisier travaille? Pour faire une chaise, pour faire un tabouret, pour faire une table. Alors ce qui est très étonnant, vous voyez, c'est que l'œuvre dans l'activité artistique, elle est bien fin, mais elle est aussi résultat. Donc on n'est pas en présence d'une causalité finale dans toute sa pureté, puisque l'œuvre, elle est deux. Elle est résultat. C'est le résultat du travail, l'œuvre. Et elle est en même temps fin. Et les scolastiques ont pris cette formule très curieuse mais intéressante en disant que l'œuvre est finis, effectus. Elle est fin, elle est effet. Et ceci, je crois ça très important pour comprendre tout le point de vue du travail artistique, où la vraie finalité n'est pas tellement l'œuvre, mais la cause exemplaire, l'idée. Quand j'ai une idée en tête, un projet, ça me sert de cause exemplaire. Je porte ça en moi. Et c'est en même temps ce qui me finalise, puisque mon idée mesure l'œuvre que je fais. C'est ça qui est le modèle. Et on retrouve ça dans la pensée scientifique. La cause exemplaire joue un rôle énorme d'exemplaire. Et c'est intéressant parce que ça nous fait comprendre comment, d'une certaine manière, la cause finale demeure en philosophie par l'exemplarité. Ce qui est, de fait, le propre de la causalité, ce qui est le propre de la philosophie platonicienne et néoplatonicienne. En Platon et dans le néoplatonisme, la finalité se ramène à l'exemplarité, la forme en soi qui mesure. Pour redécouvrir la vraie finalité, il faut toujours partir de l'amitié. Donc, point de vue éthique, l'ami n'est pas ce que je fais, ce n'est pas mon œuvre. Quand on considère l'ami comme notre propre œuvre, l'amitié très vite disparaît. L'ami est l'autre qui me finalise et je dois l'aimer en tant qu'il est autre et non pas en tant que je l'ai modifié. On a tous un tout petit peu cette tentation de faire de son ami son œuvre. Je t'aime dans la mesure où tu me ressembles. Je t'aime dans la mesure où tu es le résultat de mon amour. C'est très très foncier ça. Et c'est au fond ce que les psychologues appellent un amour captatif. Je t'aime dans la mesure où tu es dans ma main. En prenant la main comme un symbole de l'accaparement. Je t'aime dans la mesure où tu corresponds à mes désirs. l'amour, c'est d'aimer l'autre en tant qu'il est autre, mon bien, et en tant qu'il a quelque chose qui m'échappe. Pas dans l'ordre de l'originalité, mais dans l'ordre de l'exister. Ça, c'est très important. Alors, on a là l'expérience, au plan humain, de ce qu'est la finalité. Je crois que c'est la première expérience qu'on a de la finalité. C'est par l'amour d'amitié. Et donc, toute l'éthique s'enracine dans cette expérience de l'amour et de la finalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que l'éthique s'enracine dans cette expérience du bien spirituel qui m'attire. Et j'ai à ce moment-là les deux aspects de l'acte, energeia, l'autre, entelekeia, mon amour. Et les deux sont liés. Alors, c'est pas étonnant que le latin, qui est un peu plus, moins fin que le grec, ait traduit les deux actus. Ça, c'est une des confusions du passage du grec au latin. La philosophie n'est pas née à Rome, elle est née à Athènes. C'est amusant et intéressant de regarder cela. La philosophie est née à Athènes, elle n'est pas née à Rome. Rome, c'est la ville du gouvernement. Des synthèses, des méthodes, beaucoup plus. Tandis que Athènes est la ville beaucoup plus de la recherche. Oui, c'est intéressant pour nous. Alors, en dehors du point de vue philosophique, et encore au point de vue philosophique, de voir qu'au fond, même au plan religieux, il y a eu tout le développement évangélique du côté grec et tout le développement évangélique du côté latin. Et l'encyclique du pape Lumen Orientale est très significative pour cela et très intéressante pour nous. Surtout si vous avez derrière ce fond de culture grecque, de culture latine, et que vous voyez que la fine pointe de la philosophie première, chez Aristote, c'est la distinction entelekeia et energeia. Et cette distinction entelekeia et energeia est à l'intérieur même de l'amour et de la découverte de la finalité. Et le grec a bloqué les deux. C'est très curieux. Et je crois qu'il y aurait là quelque chose de très intéressant à creuser. Parce que, très facilement, on pense, en restant fixé aux mots, il faut déjà une pensée très pénétrante pour ne pas être déterminé par les mots. Le langage sert de véhicule. C'est un instrument. Ce n'est pas une réalité. Une réalité substantielle. Une réalité première. Le langage est à la fois le fruit de l'homme. C'est l'homme qui a inventé le langage. Et l'inventer avec tout un aspect conventionnel. C'est pour ça qu'il y a divers langages selon les diverses cultures. Donc le langage est à la fois un fruit et en même temps, constamment, il est une détermination. seulement le petit gosse, mais quand on commence à faire de la philosophie, il y a un langage philosophique. Et très facilement, on pourrait se fixer au langage. Et on ne va pas à la réalité. C'est pour ça que Thomas d'Aquin dit cette chose très belle. La discussion philosophique n'est pas au niveau du langage. Elle est au niveau de la réalité. Parce que le langage n'est jamais adéquat à la réalité. Alors vous pouvez toujours dire, tiens, il y a contradiction dans ce que vous avez dit. Dans un endroit, vous dites ça, dans un endroit, ah, attention, c'est deux perspectives différentes. Il ne faut jamais discuter sur le langage. Il faut discuter sur la signification de la réalité. Autrement, on tombe dans la maladie de la philologie. Et quelquefois de l'exégèse. Alors on se bataille sur le langage et non pas sur la réalité. Et alors, là il y a un point très intéressant, et je dis ça, c'est parce que le Saint-Père nous demande d'être éveillés là-dessus. Éveillés sur ce que l'orthodoxie garde farouchement. Et ce que l'Église de Rome essaie de faire comprendre, c'est-à-dire la rencontre de l'Occident et de l'Orient, au point de vue religieux, au point de vue théologique, et comme toute théologie dépend d'une philosophie. C'est intéressant, puisque la théologie, c'est l'explicitation de ma foi. Et la plupart du temps, les querelles sont au niveau de l'explicitation et non pas au niveau de la foi. Si on était tous des vrais croyants et des croyants qui vont le plus loin possible dans leur foi, on s'embrasserait tout de suite. Entre orthodoxes et catholiques, on s'embrasserait tout de suite. Parce qu'on a la même foi. Je me souviens, Olivier Clément, quand je pouvais le voir, quand on se voyait de temps en temps, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, mais au point de vue de la foi, je crois que je peux dire que tout ce que vous dites au point de vue de la foi, j'y adhère. Il est orthodoxe, converti orthodoxe, il était marxiste. J'y adhère pleinement au point de vue de la foi. Il n'y a aucun problème. C'est au point de vue de l'explicitation. Parce qu'on l'explicite avec deux philosophies différentes. Le néoplatonisme et l'aristotélisme. C'est pour ça que c'est si important. Et c'est pour ça que j'insiste, en fonction de cette encyclique du pape, de bien comprendre comment le néoplatonisme s'est développé et comment l'aristotélisme lui-même s'est développé. Et de le voir du côté culture orientale et culture occidentale. Le nœud s'est fait le passage du grec au latin. Or, il y a une distinction que Aristote a faite que je crois capital entre entelecheia et energeia. L'ami, le bien qui me finalise, energeia. Et la manière dont je l'atteins, entelecheia, l'amour. Je saisis le bien en l'aimant. Mais je saisis le bien en l'aimant, en sachant très bien que l'amour que j'ai pour ce bien n'est pas ce bien. Vous voyez, quand vous vous précipitez sur votre ami, vous dites comme je t'aime, tu es tout mon amour, et que j'identifie mon ami et mon amour, vous étouffez un amour qui étouffe. Tandis qu'au contraire, quand vous aimez votre ami et que vous savez très bien que c'est l'ami qui est source de votre amour, à ce moment-là, loin de l'étouffer, vous le respectez comme celui qui est autre que vous et comme celui qui vous finalise. Et ça n'a l'air de rien, ça, mais c'est capital. Tous les divorces prennent leur origine à partir de là. C'est qu'on n'a pas respecté assez l'ami et qu'on l'a identifié à l'amour qu'on avait pour lui. Alors à ce moment-là, on ne regarde plus l'ami, on ne regarde plus que l'amour qu'on a pour lui. Et si, pratiquement, l'ami ne m'aime plus de la même façon, mon amour pour lui diminue et petit à petit, on dégringole dans le fossé. Et dans le fossé, on dit, oui, je t'ai aimé, mais je t'aime plus. C'est terrible, ça. Et un amour qui avorte, c'est effrayant. Parce qu'on a identifié entelecheia et energeia. Et ceci, c'est que dans la traduction latine, on a mis le même mot. Alors, ce qui fait comprendre comment Heidegger, qui reconnaît que le sommet de la philosophie grecque, c'est Aristote, il le reconnaît. Mais il le reconnaît en disant c'est entelecheia. Il ne dit pas energeia, c'est entelecheia. C'est-à-dire, c'est mon amour qui est le sommet de la philosophie grecque, et non pas l'ami. Alors ça, c'est aussi très éclairant pour voir comment quelqu'un d'aussi intelligent que Heidegger, en fonction du latin, bien qu'il aime beaucoup le grec, et qu'il cite constamment les mots grecs, et non pas les mots latins, il n'a pas vu que pour Aristote, il y a deux mots. Lui qui est très philologue, deux mots distincts pour voir l'être en acte. Entelecheia et energeia. Entelos et geia. Vous voyez, Aristote a uni ça. Il a inventé ce mot. Alors je comprends très bien que pour un philologue, c'est très intéressant. Aristote a inventé deux mots. Qu'on a traduit cudité, et entelecheia, qu'on a traduit entéléchie. C'est effrayant. Entéléchie, c'est pas très harmonieux, et c'est pas français du tout. C'est un décalque. Alors plutôt que de dire entéléchie, vaut mieux dire entelecheia. Je trouve ne pas traduire. Dit qu'entéléchie, vous comprenez ce que ça veut dire entéléchie, hein? Regardez dans le dictionnaire. Ce n'est pas un mot français. Je voulais revenir là-dessus pour que vous voyez bien, étant donné l'alerte du pape pour tous les chrétiens, pour unir l'Orient et l'Occident, pour les unir, il faut voir le moment où il y a une confusion. Pour revenir, non pas en disant nous avons raison d'avoir une entelecheia energeia, non, au contraire, de dire il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez bien vu, aussi bien les Grecs que les Latins, pour creuser davantage. Quand je saisis l'être en acte energeia, je peux tout de suite comprendre que je saisis là ce qu'il y a d'ultime dans ce qui est. Sa fin. Qu'est-ce que c'est que la fin d'un être? La fin d'un être, c'est mieux que sa perfection. C'est ce qui est capable d'attirer un autre. bien ça. On dit telle personne, elle est parfaite. Je ne peux jamais découvrir en elle une imperfection. Tout ce qu'elle fait, c'est parfait. Mais elle est tellement consciente de sa perfection que je ne peux pas l'approcher. Tandis que vous dites cette personne, où elle est bonne, elle attire. La bonté attire. La beauté séduit. La bonté attire. Et la perfection, il n'y a aucun défaut. La perfection ne séduit pas. La perfection n'attire pas. Vous voyez, il y a là trois réalités, pas seulement les mots, mais trois réalités très importantes. Un être parfait, c'est celui à qui il ne manque rien de ce qu'il devrait avoir. Ça, c'est la perfection. Un être beau, il est capable de séduire. La beauté séduit. Et la bonté attire. Et la bonté est fin. Qu'est-ce que c'est que la fin? C'est le bien, la bonté dans son absolu. À la différence du moyen. Le moyen, c'est une bonté relative à un autre. Un médicament est bon s'il me donne la santé. Si ce médicament ne donne pas la santé, je n'en ai pas besoin. C'est ce que vous faites toujours, l'infirmier fait ça. Hein. Et la propagande veut séduire. Toute la propagande est du côté de la séduction. Mais quand un nouveau médicament apparaît, il y a une inondation de séduction. On n'avait encore jamais découvert ça, c'est merveilleux, c'est étonnant, c'est extraordinaire. 3 ans après, quand il y a un autre médicament meilleur, le premier disparaît. La séduction a passé. Vous voyez, c'était Grasset, l'éditeur, qui disait « Je peux lancer le roman que je veux par la propagande qui joue le rôle de séduction. » Parce que les hommes sont incapables de discerner ce qui est vraiment beau, ce qui est vraiment laid. Mais ils se laissent aller à la propagande. La séduction. Et c'est vrai, ça. Les médias, aujourd'hui. La puissance des médias est extraordinaire. La puissance des médias empêche l'homme d'avoir une véritable expérience. Et on pense en fonction des médias. Alors à ce moment-là, c'est terrible. On est esclave des médias. C'est le nouvel esclavage. Il y a un esclavage pire que le premier. Tout ça, vous voyez, tourne autour de ce que c'est que la fin. C'est la finalité qui me libère de tout esclavage. Parce qu'elle me donne ce qui me permet d'être ce que je dois être. Découvrir ma finalité, c'est découvrir ce qu'il y a de meilleur en moi et ce par quoi je suis capable de me libérer de tous les autres. Vous êtes dépendant des médias dans toutes les matières où vous n'avez pas poussé votre enquête philosophique et critique jusqu'au bout. Quand vous avez poussé votre enquête philosophique et critique jusqu'au bout, vous êtes libre des médias. Oh, je connais. Vous laissez les gens crier et vous allez tout de suite au but. C'est ça la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité me fait atteindre ce qui finalise mon intelligence. C'est la vérité. C'est le bien de mon intelligence. Et quand je connais la vérité, je suis libre des opinions. Quand je ne connais pas la vérité, je suis dépendant des opinions. Et la grande astuce des médias, c'est de mettre en lumière constamment tel ou tel média, telle ou telle opinion. C'est l'affiche. L'affiche met en pleine lumière une opinion sur telle nouveauté, telle réalité qu'on vient d'inventer. dessus. Quand je découvre l'être en acte, je découvre ce qui, dans l'ordre de ce qui est, est ultime et une fin. Comme c'est très subtil et très difficile, pourquoi la finalité a-t-elle disparu si vite après Aristote ? Pourquoi la finalité a-t-elle disparu si vite après Thomas d'Aquin ? Qu'est-ce qui rapproche Aristote et Thomas d'Aquin ? C'est que tous les deux ont saisi l'être en acte. Oui, au sommet, il y a l'Himalaya philosophique, il y a l'Himalaya théologique. Ce sont les deux. Parce que si je ne saisis pas l'être en acte, je retombe sur l'être substance. Et j'ai une ousiologie. C'est comme ça que Gilson nomme la métaphysique d'Aristote. Ce qui est faux. Parce qu'Aristote a découvert l'être en acte. Mais Gilson, l'ayant moins bien découvert qu'Aristote, croit qu'Aristote ne l'a pas découvert. Ça arrive souvent, ça. Hein. On projette ce qu'on a découvert sur l'autre. Alors il dit, c'est une ousiologie. Tandis que la métaphysique dont se sert Thomas d'Aquin, c'est la métaphysique de l'essai. C'est une autre métaphysique. Alors que je crois que la métaphysique dont se sert Thomas d'Aquin, c'est celle d'Aristote. Puisque Thomas d'Aquin définit l'essai, l'acte, actus essendi. Donc il définit l'essai, l'exister, l'être, par actus essendi. Dès qu'on découvre l'être en acte, on peut découvrir tout de suite les diverses manières dont l'être en acte se présente à moi. L'essai de Thomas d'Aquin, c'est être, essai, c'est la forme infinitive du verbe être. Ego sum, c'est le présent, essai, l'infinitif. Hein? Donc c'est la forme infinitive de l'être, l'essai. Le vrai, la vérité, le bien, la bonté, l'opération vitale, les opérations vitales, le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. L'être en acte a 5 manières d'être, d'exister. Il se présente à moi selon 5 modalités. C'est très curieux cela, et c'est très intéressant. Vous voyez que par là, c'est l'Himalaya philosophique, l'être en acte. Je peux tout de suite voir le rayonnement de l'être en acte sur la philosophie première. L'être en acte au niveau de la substance, c'est être existé. La substance subsiste. Subsister, c'est-à-dire que l'essai lui appartient. La vérité. Je cherche la vérité en premier lieu. Je la cherche dans toute la philosophie, c'est évident. Mais la vérité est cherchée d'une manière explicite et d'une manière critique, en critique. Elle est cherchée aussi, hein, c'est bien évident. Mais pour l'explicité, la bonté, l'éthique. Philosophie première, éthique. Essai et bonté. Les deux extrêmes qui s'unissent par la vérité. Les opérations vitales, philosophie du vivant. Le mouvement, philosophie de la nature, philosophie de la matière. Alors, vous voyez, toutes les parties de la philosophie sont présentes dans la lumière de l'être en acte. Alors je peux me poser la question, ah mais attention, il y a d'autres parties de la philosophie que je n'ai pas dites. L'éthique, c'est le sommet de la philosophie humaine. Pratique. Mais il y a aussi la philosophie de l'activité artistique. Le fa tchéré. Ici, c'est la tchéré. Alors, que devient... Est-ce que cette philosophie de l'activité artistique ne doit pas me donner, elle aussi, une modalité de l'être? Je vous ai dit tout à l'heure que la philosophie de l'activité artistique est commandée par la cause exemplaire, qui au fond remplace la cause finale. Donc c'est normal que je ne la retrouve pas dans les modalités de l'acte. Si ma philosophie était la philosophie de la forme, la philosophie de l'art serait le sommet de ma philosophie. Et toutes les philosophies qui n'atteignent pas la finalité se rabattent sur la causalité exemplaire. Le néoplatonisme. C'est vrai que pour connaître bien ce que c'est que la cause exemplaire, je regarde le néoplatonisme. Dans le néoplatonisme, la cause exemplaire, elle est extraordinaire, parfaite, le beau. Le beau qui n'est pas un transcendantal, mais qui séduit. Le beau me fait tourner la tête, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça me séduit. Et quand on est très séduit, on voit tout à travers la séduction. C'est très curieux, ça. Donc c'est très intéressant à voir que la philosophie de l'activité artistique ne me donne pas une nouvelle modalité. La philosophie politique. Tiens, la philosophie de la communauté. Oh, elle implique à la fois le point de vue éthique en premier lieu. Elle implique le point de vue de la philosophie de l'activité artistique. La philosophie politique n'est pas une philosophie première, elle implique deux aspects, l'adjéré et le facéré. Et elle unit les deux pour comprendre ce que c'est que la communauté humaine. Toute communauté humaine est liée à l'adjéré, est liée au facéré. Dans certaines communautés humaines, l'adjéré est premier. Le fait de gérer second, religieuses. Dans les communautés politiques, souvent le fachiré est premier et l'adjuré est second. Et c'est le mélange du fachiré et de l'adjuré qui fait toutes les diverses politiques. Ça, c'est très intéressant. Donc, si la philosophie politique, la philosophie de la communauté n'est pas représentée dans les modes particuliers de l'acte, c'est tout simplement parce qu'elle n'a rien de particulier au point de vue nouveauté principe. Elle ne me donne pas de nouveaux principes puisqu'elle est commandée par le bien commun. Alors le bien commun, comme tout le monde sait, c'est pas le bien particulier ni le bien transcendant. Donc, elle ne me donne pas une nouveauté par rapport au bien. C'est l'éthique personnelle qui me donne le point de vue du bien. De sorte que toutes les parties de la philosophie sont présentes dans ces cinq modalités de l'acte. C'est important de comprendre ça. Et c'est important de comprendre comment la philosophie politique et la philosophie de l'activité artistique ne sont pas immédiatement reliées à la philosophie de l'être en acte. Ça explique toutes les déviations et toutes les manières dont l'être en acte est remplacé par le point de vue de l'exemplarité. Oui, la philosophie des valeurs, puisque c'est très actuel, hein, la philosophie des valeurs, ou la politique des valeurs, l'exprime très bien. Les valeurs, ce n'est pas la fin, c'est la cause exemplaire. Ce serait très intéressant à développer ça. Regardez la philosophie de Lessen, c'est la philosophie des valeurs. Regardez en Hongrie, où ça s'est développé énormément la philosophie des valeurs, et surtout la théologie des valeurs. Pratiquement, ce n'est plus la fin, c'est la cause exemplaire. Alors, je ne veux pas entrer dedans, je situe hein, simplement, parce que ce n'est pas la matière qu'on traite cette année-ci. Je sais simplement pour que vous voyez la structure de la philosophie première qui s'achève dans l'être en acte et ses cinq modalités. Comme on les reverra, c'est pour ça que je les situe dans leur découverte. Après avoir saisi les deux grands principes propres de ce qui est en tant qu'il est, l'ousia, la substance, et l'être en acte, energeia. Et ceci, je le découvre à partir du « je suis ». À partir du jugement d'existence, ceci est. Je me pose la question, quelle est la propriété de ce qui est en tant qu'il est? Ce n'est plus la structure propre de ce qui est en tant qu'il est, mais c'est sa propriété. La propriété fait toujours appel à la manière d'exister. Vous voyez, je touche ce qu'on dira le comment, et non plus le tiesti. Je touche le pos. Dès que je regarde la propriété, je touche le pos. Le comment. Comment, de fait, se présente à moi la substance qui existe. Comment se présente à moi l'être en acte qui existe? Je dis que la propriété de ce qui est en tant qu'il est, c'est l'un. Ah, vous voyez, là encore, position diverse des néoplatoniciens et des aristotéliciens, c'est-à-dire la philosophie réaliste et la philosophie commandée par la cause exemplaire. Pour les néoplatoniciens, l'un est plus radical que l'être. Pour la philosophie réaliste, l'un est propriété.
Mesurer l'océan. Et vous comprenez qu'il ne peut pas le mesurer.
L'océan dépasse sa petite mesure. Je ne peux pas mesurer une source. Je commence à mesurer, puis ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. C'est agaçant. Je n'arrive jamais à la mesurer. Pourquoi je ne la mesure pas? Pourquoi je ne peux pas mesurer une source alors que je peux mesurer la quantité? C'est très curieux, ça. Parce que la source est toujours en mouvement. Est-ce que vous pouvez mesurer le mouvement? Non, il vous échappe. Il est acte. Vous ne pouvez pas le mesurer. Vous ne mesurez pas l'acte. Vous mesurez une réalité quantifiée en puissance. Vous voyez, il faut revenir à cette question-là. L'un et la mesure, la cause exemplaire. Et voir que, de fait, cette cause exemplaire est une. C'est moi qui la fais une. Je considère le litre comme ce qui me permet de mesurer un tonneau, un baryde. C'est moi qui ai donné à la mesure cette qualité d'être individu et de mesurer. Alors, je fais un un en soi par la mesure, l'un en soi indivisible. Mais en réalité, si je réfléchis, je vois que au-delà de cela, il y a la source qui ne peut pas être mesurée. Et la source, elle est en acte. Alors, l'acte est un. Mais il est au-delà de la mesure. Donc vous découvrez deux espèces d'unité. Une unité que l'homme conventionnellement se donne. Pourquoi on compte en kilomètres ou en compte en autrement, il y a quelque chose de conventionnel. Tandis que l'acte touche la réalité. Et cette réalité est une en tant qu'acte. Et elle n'est plus conventionnelle. Vous avez donc l'un propriété de ce qui est. Parce que ce qui est en tant qu'il subsiste, en tant qu'il existe, en tant qu'il est en mouvement, en tant qu'il est une opération vitale, a une certaine unité. Et puis, il y a l'un mesure qui se ramène à la cause exemplaire. Si je ne découvre pas la finalité, la cause exemplaire est première et ultime. Et donc, l'un passe avant l'être. Il faut essayer de saisir ça, parce que ça c'est très important, oui, de saisir comment dans le néoplatonisme, l'un est ultime, au-dessus de l'être, et comment dans une philosophie réaliste, l'un est acolyte de l'être en acte, de l'être substantiel. Et je vois tout de suite que dans une philosophie réaliste, il y aura deux modalités de l'un. L'un qui se rattache à l'être en être, l'un qui se rattache à l'être substance. Après cela, parce que tout cela est au niveau du jugement d'existence, je me dis, il y a un problème particulier. Lorsque je passe du ceci est à je suis, alors j'ai le second pose de la métaphysique, qui est le problème de la personne. et la personne. Ce sont les deux comment. L'un, le comment de ce qui est, et la personne, le comment du je suis. Ce que nous verrons la fois prochaine.